France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy sort de prison. Comment sort la démocratie? Et 10 ans des attentats du 13 novembre, après le souvenir, où en est la menace et comment la contrer? Nous serons avec Marc Lazare, Magali Lafourcade, Perrine Simon-Naoum et Arthur Chevalier. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister.
Nicolas Sarkozy, à la sortie du tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre dernier, il est condamné en première instance à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Il entre à la prison de la Santé le jour même et vient d'en sortir lundi 10 novembre, 3 semaines plus tard. La cour d'appel a accepté sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire et lui interdit d'entrer en contact avec les autres prévenus, le cabinet du garde des Sceaux et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui lui avait rendu visite. L'ex-président français de 2007 à 2012 a déjà été condamné définitivement en décembre 2024 pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation se prononce le 26 novembre prochain sur l'affaire Big Malion, pour laquelle il a été condamné en appel pour financement illégal de sa campagne de 2012. L'intéressé, présumé innocent, notamment dans l'affaire libyenne, proclame son innocence et affirme que la fin de l'histoire reste à écrire. Un ancien président de la République en prison, du jamais vu sous la Ve République. Que nous dit cet événement? Son traitement politico-médiatique et judiciaire de l'État, de notre démocratie. Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis à Rome. Vous venez de faire paraître Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle, aux éditions Gallimard. Bonjour Magali Lafourcade.
Bonjour.
Merci d'être là. Magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés, votre dernier ouvrage, Le que sais-je, les droits de l'homme, est disponible aux éditions PUF. Bonjour Perrine Simon-Naoum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Directrice de recherche au CNRS, professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, et vous êtes l'autrice de Sagesse du politique, le devenir des démocraties, c'était en 2023, aux éditions de l'Observatoire, et de Aron's critique de Sartre aux éditions Kalman-Lévy en mars dernier. Et bienvenue à vous Arthur Chevalier.
Bonjour.
Auteur, éditeur, chroniqueur, je cite votre dernier livre, L'histoire à l'épreuve des émotions, aux éditions du Cerf en 2024. Merci à tous les quatre de participer à l'Esprit public en direct et merci à vous de nous écouter en podcast ou comme tous les dimanches en direct sur France Culture. Alors une première question pour tous les quatre, est-ce que le placement de Nicolas Sarkozy en détention, sa libération et plus généralement ses affaires représentent une onde de choc bien plus profonde pour la société et la démocratie française que celle que l'on a pu suivre au quotidien? Magali Lafourcade.
Alors, je dirais que il y a tout un pays avec cette séquence-là qui s'est interrogé pour la première fois de façon aussi profonde sur qu'est-ce que c'était que les conditions pour incarcérer, qu'est-ce que c'était que la dangerosité, est-ce que l'association de malfaiteurs, la délinquance en col blanc est si corrosive pour la société que on peut la mettre sur le même plan que de d'autres délinquants plus ordinaires qui se sont donc voilà interrogé aussi sur le fait que finalement en prison il n'y a pas que des criminels de sang, il y a aussi une autre population qui est bien plus large. Sur l'état aussi des prisons, ça a été pour la première fois, alors qu'on a des alertes qui viennent de partout, donc des professionnels mais aussi des instances internationales, je pense en particulier à la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que l'état des prisons est déplorable et qu'on a une surpopulation carcérale qui empêche la réinsertion et qui nous met dans une dangerosité collective. Ça a été mis sur la table pour la première fois, alors qu'on a depuis longtemps un populisme pénal qui nous dit qu'il faut toujours plus incarcérer. On a aussi eu des discussions très saines sur qu'est-ce que c'était que le droit au recours effectif. En quoi l'exécution provisoire était une atteinte à ce droit au recours? Est-ce que la présomption d'innocence est compatible avec la détention provisoire? Et finalement aussi, le principe d'égalité de tous devant la loi et la justice. Ça, ce serait pour le volet positif. Mais maintenant, je voudrais aussi dire que on peut voir que dans cette séquence, il y a quand même des digues qui ont rompu. Moi, je considère que 2025, c'est l'année où il y a eu des attaques contre la justice, contre l'institution qui vise à son discrédit général, qui ont été d'une virulence extrême. On a des attaques contre la justice depuis très longtemps, depuis que la justice s'intéresse, et c'est déjà sous la Troisième République, hein, aux affaires de corruption de la politique. On a aussi eu des menaces sur les magistrats. Il n'y a jamais eu autant de magistrats qui craignent pour leur vie. Et ça, c'est une dérive qui est aussi alimentée par la violence des chaînes d'infos en continu et par les réseaux sociaux qui ne se privent pas d'alimenter tout ça. On a vu aussi un certain mépris des responsables politiques pour l'autorité judiciaire, des violations répétées de la séparation des pouvoirs. Et dans cette dernière séquence, moi j'observe un signal désastreux pour la légitimité de la lutte contre la corruption, les atteintes à la probité. Il y a vraiment eu un soutien explicite des autorités les plus élevées de notre pays, dans l'exécutif, pour une série de personnes qui sont soit renvoyées dans le tribunal correctionnel pour des faits de corruption, je pense à Rachida Dati, soit condamnées, présumées innocentes parce qu'il y a un appel en cours, mais condamnées pour des faits qui sont liés à des atteintes à la probité au sens large.
Arthur Chevalier.
Oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans toute cette séquence, où je ne reviendrai pas sur cette décision de justice qui appartient aux juristes et ils le font très bien, c'est qu'on a d'abord eu un débat d'ordre judiciaire. Les Français se sont fait leur opinion relativement à une décision de justice, ce qui est normal, nous vivons dans un état de droit. Et puis après, très vite, on a eu un débat institutionnel. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est cette partie-là qui m'a le plus frappé, c'est qu'on est assez rapidement arrivé, non pas tant sur la question de la justice, encore que, mais sur celle de la fonction de président de la République. Et on s'est rendu compte, et je pense qu'on ne s'y attendait pas, que c'était pas une question réglée en France du tout. Pas du tout, du tout. Vous rappeliez justement, Maguila Fourcade, que on a... Bon, il y a la question de la délinquance en col blanc. Mettre des gens puissants et riches en prison, mais ça, on l'a déjà fait en France. Bernard Tapie a été en prison, des gens riches et puissants ont déjà été en prison. Là, on parle pas du tout de la même chose. On parle de Nicolas Sarkozy, qui est un ancien président de la République. On pourrait répondre à ça. Nicolas Sarkozy est une personne normale. Il est donc normal de le condamner. Sauf que dans les faits, la fonction présidentielle elle-même n'est pas conçue comme une fonction normale. J'en pense ni bien ni mal, mais c'est la vérité. Les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, mais aussi François Hollande et Emmanuel Macron ensuite, ont un statut particulier. Ils ont un statut protocolaire privilégié, ils ont des collaborateurs, ils ont un bureau, ils ont un service de sécurité. Donc, il y a dans la fonction présidentielle l'idée de la continuité. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce pays, depuis la transition entre l'ancien régime et le nouveau régime, évidemment matérialisé par la Révolution française, nous n'avons pas réglé, au sein de notre société, la question du roi et de la République. Nous n'avons pas réglé la question de l'incarnation de l'État. Il n'est pas vrai que la République a mis à mort la question transcendantale du pouvoir. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, mais passionnant, parce qu'en fait, les gens qui étaient entre guillemets, d'accord avec les magistrats pour cette décision et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas été convaincus par le mois de débat qui a eu lieu sur les plateaux, par les débats entre les journalistes qui ont procédé aux investigations. Ils n'ont pas été convaincus. Moi, j'ai pas vu des gens qui ont changé de position. Les gens sont restés bien campés sur leur position. Et en fait, ils défendaient moins l'innocence de Nicolas Sarkozy que la fonction de chef de l'État. C'est une honte. Voilà ce que les gens disaient. C'est une honte. Parce que c'est un président de la République. Encore une fois, ici, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mal, mais je remarque que ce n'est pas une question tranchée. Et je terminerai avec une dernière chose sur Louis XVI, justement. Notre dernier roi de France. Non, mais je ne fais pas de comparaison entre Louis XVI et Nicolas Sarkozy. Mais la fin de la monarchie, la fin de l'ancien régime se matérialise pour moi le jour de la mort de Louis XVI, en janvier 1793. 21 janvier 1793, exactement. Cette condamnation à mort de Louis XVI a eu lieu au terme d'un procès qui déjà a fait beaucoup de débats à l'époque. Hein, exactement, c'était une vraie question judiciaire. Ce procès a été tenu par l'Assemblée nationale, qui n'avait pas le pouvoir, c'est Robespierre qui l'a relevé, de condamner à mort le roi, qu'il a quand même fait avec des chefs d'inculpation très, très précis. Hein. Haute trahison, collaboration avec l'ennemi, et d'ailleurs des chefs d'inculpation qui se sont avérés fondés. Mais il n'empêche que c'est un peu plus de 350 individus qui ont décidé d'une rupture civilisationnelle en France. Et après, cette question, elle revient sur la table très régulièrement. Donc je pense que ça nous renvoie 200 ans en arrière.
Perrine, Simon Naoum et puis Marc Lazare.
Oui, j'essaierai de prolonger ce que Arthur Chevalier vient de dire avec une grande justesse, c'est-à-dire que, effectivement, c'est un symbole très fort et en même temps ambivalent. En France, nous aimons les rois et nous les décapitons. Nous admirons les puissants et nous les haïssons. Et donc, si vous voulez, Nicolas Sarkozy lui-même, d'ailleurs, qui est un excellent communicant, a très bien, s'est très bien saisi de ce symbole, notamment quand il a dit finalement l'histoire n'est pas écrite. Il a mis en scène en quelque sorte les soutiens dont il a bénéficié. Cela dit, n'est pas Dumas qui veut, même si celui-ci avait Auguste Maquet pour l'aider. Ce que je dirais peut-être plus sérieusement, c'est que effectivement, comme l'a rappelé Magali Lafourcade, ça nous dit beaucoup de choses de la faiblesse en réalité de notre démocratie. C'est vrai qu'on peut se réjouir de la séparation du pouvoir, de voir finalement des actes de corruption qui soient ainsi sanctionnés. En réalité, je dirais que d'une part, ça montre la faiblesse des partis politiques, dont on sait qu'ils ont toujours été en difficulté dans le régime de la Ve République, notamment dans la Constitution et notamment à travers leur financement. Et que la loi de 1990, qui devait finalement apurer en quelque sorte ce système de financement des partis politiques, n'a pas réglé les choses. D'ailleurs, ce qui m'a frappée, c'est que cette loi a été plusieurs fois revue, notamment en 2018, où on avait eu l'idée de faire ce qu'on a appelé la banque de la démocratie. Mmh. Et finalement, cette idée a été abandonnée, mais il faut quand même rappeler que la loi stipule qu'aucun État étranger ne peut prêter de l'argent à un parti français, de même qu'aucune banque extra-européenne. La deuxième chose, c'est finalement la confrontation, et là encore Magali Lafourcade, vous l'avez rappelé, à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs années entre le politique et judiciaire. Et ça, évidemment, je crois que ça montre, au-delà des institutions françaises proprement dites, le problème de notre société, la manière dont nous avons du mal, finalement, à concevoir la séparation du pouvoir. Et puis, je dirais que le fonctionnement des institutions n'est sans doute pas le seul en cause, qu'il y a d'abord et avant tout l'état d'indigence de notre service public et d'abord de la justice. Et il me semble que la méfiance vient tout autant, je dirais, de la politisation finalement de certaines instances, on se souvient le mur des cons, etc., en 2013, que des difficultés de fonctionnement et de la frustration, je dirais même du ressentiment professionnel, vous le direz mieux que moi, je pense, ressenti par des juges, des avocats, des personnels de justice qui ont le sentiment finalement de ne pas pouvoir exercer leur fonction à hauteur de leur vocation. Et là, il y a vraiment ce que j'appellerais un ressentiment professionnel auquel on doit être sensible, d'abord parce qu'en tant que citoyen, nous pouvons, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, avoir affaire à la justice, mais aussi parce que l'état de la justice dit l'état d'une société.
Marc Lazare.
Je vais prolonger un peu ce qui a déjà été dit sur la question de l'effet politique de tout ça. Je pense que les décisions de justice qui ont été prises contre Nicolas Sarkozy sont, du coup, affectent encore plus la représentation qu'ont une majorité de nos citoyens actuellement de la politique. C'est-à-dire, si quelqu'un comme Nicolas Sarkozy a pu être condamné pour les raisons... en considérant que ces décisions sont justes pour les positions qu'il a prises, pour les actes qu'il a faits. Évidemment, tout ce que l'on a comme enquête sur la défiance à l'égard des responsables politiques ne fait que s'accroître, incontestablement. Mais effectivement, je suis très intéressé par ce que vous avez dit, Arthur, parce que moi, j'étais en Italie au moment où cette décision a été prise. Et c'était la stupeur en Italie, aussi bien des gens de gauche que de droite. Mais comment avez-vous pu mettre... votre président de la République en prison. Ils étaient absolument sidérés. Pourtant, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'affaires de corruption. Hein.
Ils ont été beaucoup en prison chez eux.
Alors, oui, mais jamais un président de la République, y compris un, le président Léone, qui avait dû démissionner à l'issue d'un gros scandale. Et donc ça, ça m'a beaucoup frappé, parce que je crois que, d'une certaine façon, c'est une forme d'affaiblissement aussi de l'institution présidentielle. Et cette institution présidentielle, de fait, de facto, et de ce point de vue-là, ça arrive à un moment donné où beaucoup de gens cherchent à affaiblir ou affaiblissent l'institution présidentielle. La France insoumise demande en permanence la démission d'Emmanuel Macron, et même des responsables de droite, Jean-François Copé, et même
un ancien premier ministre,
Édouard Philippe, qui explique qu'il faut que le président de la République démissionne, que lui n'a jamais rien demandé, mais qu'on était venu le chercher, ce qui est ce que disent les enfants dans une cour d'école quand ils sont allés taper leurs camarades, et qui me fait penser à ce que disait un grand patron, dont je ne citerai pas le nom, avec cette formule formidable qu'il avait, que la reconnaissance est la maladie du chien non transmissible à l'homme. Bon, véritablement. Et donc, c'est vrai que ça affecte beaucoup la présidence de la République. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a de plus en plus, mais pas simplement en France, c'est sur ce point que je voudrais insister, une confrontation avec l'état de droit et avec ce qu'on appelle maintenant le pouvoir des juges. C'est pas uniquement français, Magali Lafourcade, je sais que vous le savez, vous avez insisté sur le cas français, mais dans tous les pays européens et aux États-Unis actuellement, on voit cette confrontation entre le politique et, en tout cas, un certain type de politique et le pouvoir judiciaire. Et ce qui est frappant, c'est que au départ, c'est parti des nationaux populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. On cite souvent le Rassemblement national en France. Mais enfin, rappelons-nous de Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi, face au pouvoir des juges qui étaient en train, effectivement, d'enquêter sur lui-même, sur son parti. Et ça contamine maintenant toute une partie du reste de la classe politique, en particulier à droite. Donc là, on a un élément très important. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est dû, justement, à une forme de politisation de la justice? C'est par exemple une accusation très fréquente en Italie depuis Silvio Berlusconi contre ce qu'il appelait les juges rouges. Bon, est-ce que c'est ce point-là qui est en cause? Est-ce que c'est lié à une forme d'affaiblissement du pouvoir politique lui-même et qui a du coup l'impression que d'autres pouvoirs s'étendent? C'est une question très importante aujourd'hui hein, dans nos démocraties, la perte du pouvoir du politique, d'influence, de ses capacités d'action. En tout cas, là, il y a une question très importante. Or, moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement il y a ces critiques contre l'état de droit, mais d'une certaine façon, ça a un écho dans l'opinion publique. Ça n'a pas un écho sur l'affaire Sarkozy. Je regardais les enquêtes d'opinion. 6 Français sur 10 considèrent que la condamnation de Nicolas Sarkozy est une décision impartiale. 6 sur 10 aussi que l'exécution provisoire est une mesure juste. Donc on pourrait se dire, ils approuvent complètement. Mais au même moment, il y a une critique du fonctionnement quotidien de la justice. 1 Français sur 2 considère que la justice fonctionne mal. Et donc, ce type d'attaque contre l'état de droit, contre le pouvoir judiciaire, trouve une oreille attentive auprès d'une partie des Français, parce que eux, ils voient les difficultés de la justice. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très important, et j'aime bien faire le détour italien, comme vous le savez, il va y avoir un référendum en Italie sur la réforme de la justice proposée par le gouvernement actuel, qui, entre autres, propose une séparation des carrières, c'est-à-dire sur le modèle français. Ça divise, en fait, hein, l'opposition. Il y a une opposition forte, mais il y a beaucoup de gens de gauche qui ont dit qu'ils voteraient en faveur de cette mesure. Et vraisemblablement, le référendum va être gagné pour la première fois depuis très longtemps sur une question pareille. Et c'est lié, entre autres, à l'exaspération des Italiens face aux difficultés et aux dysfonctionnements de la justice. Donc je me demande si tout ça n'est pas mêlé. En tout cas, je le mets au cœur de notre débat ce matin.
Magali Lafourcade, surtout en tant que magistrate, j'imagine que vous avez beaucoup de réactions. Et j'aimerais peut-être aussi rajouter dans le débat cette information qui est importante. Quand la Cour d'appel accepte la libération de Nicolas Sarkozy, elle lui demande, elle lui interdit d'entrer en contact avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. C'est quand même pas anodin, cette information-là.
Ah oui, ça c'était totalement... ça, c'est sans précédent. Hein. Bon, de toute façon, on est dans le sans précédent partout. Hein. Et si vous me permettez, Astrid, avant d'aller sur justement ce point pour dire ce qu'il y a dans la décision, pour l'éclairer un petit peu, je voudrais rebondir sur deux éléments très intéressants qu'a apporté Marc Lazare. D'abord, donc sur cette attaque un peu généralisée contre les magistrats pour mieux attaquer l'état de droit, parce qu'en fait derrière, c'est la remise en cause de l'ordre constitutionnel sur lequel il y avait un consensus après la Seconde Guerre mondiale, dans la Constitution de 46 puis de 58, sur l'idée que la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Donc on a la séparation des pouvoirs et le juge interprète la loi et surtout il vérifie sa conformité par rapport à des normes supralégislatives, c'est-à-dire constitutionnelles et conventionnelles. Et là, il y a l'idée qu'en fait, on est en train de dire que les magistrats n'ont pas le droit de juger les politiques et donc ne seraient que... Donc, pour moi, ce qui abîme la fonction, ce qui abîme l'image des politiques, c'est avant tout les actes qu'ils ont commis en violation de la loi pénale. C'est après que le juge puisse s'en saisir, heureusement qu'il y a ce garde-fou-là, parce que la justice est aussi un contre-pouvoir. Donc on est dans un révisionnisme d'ambiance juridique dans plein de pays qui attaquent du coup les juges pour obtenir ce but-là. Et c'est là où on voit l'évolution dans une période récente. Affaire Fillon, 2017, il sort le cabinet noir, complotisme, il attaque les juges, et à ce moment-là, la classe politique, en particulier à droite, se désolidarise de lui en estimant qu'un homme qui porte les questions de probité, d'autorité, et qui veut être président de la République, ne peut pas abîmer autant les institutions. 2024, les réquisitions sur l'affaire du RN contre Marine Le Pen. 2025, la condamnation de Marine Le Pen en première instance. Je rappelle qu'elle est présumée innocente. Le renvoi de Rachida Dati, elle n'est pas jugée, elle est présumée innocente. Et Nicolas Sarkozy, qui lui aussi, ayant fait appel, est présumé innocent. À ce moment-là, la classe politique, même non alliée de ces personnes-là, se solidarise, pas toute la classe politique, mais une grande partie, et attaque de manière frontale les juges. Donc on voit à quel point, puis cette incarnation du pouvoir, vous l'avez rappelé avec La République, c'est moi, on a aussi Nicolas Sarkozy qui dit « La France est humiliée ». Voilà. Et alors sur la critique de la justice, donc c'était le deuxième point que Marc a développé, que je trouve passionnant. Quand on regarde les études précises sur ce que les justiciables, les Français, d'abord, il n'y en a pas beaucoup qui ont... c'est pas un service public de proximité, la justice. Hein, vous avez affaire de temps en temps dans votre vie, mais pas tous les quatre matins, c'est pas comme l'hôpital ou l'école. Ils disent qu'ils reprochent la lenteur, ils reprochent le langage abscon, la complexité du système. Voilà. Tous les magistrats sont d'accord avec ça. Ça, c'est la clochardisation de la justice. On ne peut pas ne pas être d'accord. Par contre, quand on regarde les études et qu'on demande aux gens s'ils ont eu une expérience judiciaire dans les 10 dernières années, là, les scores sont bien plus élevés de satisfaction. Donc, il y a une image projetée de la justice sur laquelle on peut tous être d'accord, le diagnostic est posé. Et ça, c'est aussi lié au fait que le politique, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, ne lui donnent pas les moyens. Et du coup, il y a des vrais dysfonctionnements qu'on regrette tous et qui nourrissent cette défiance vis-à-vis de la justice. Et je rejoins Marc sur le fait que la défiance, elle va surtout abîmer les politiques dans cette période-là. C'est pas la justice qui va en sortir abîmée. Dans quelques années, quand on revisitera cette période, on verra tous ces politiques qui se sont solidarisés dans une affaire qui est certainement une des plus graves de la Ve République.
Allez-y, Arthur Chevalier.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, la lutte des classes, elle se décline dans la politique. C'est-à-dire que vous parliez très justement, Magali Lafourcade, de cette alliance qu'il y a entre les représentants du pouvoir exécutif contre la justice, qui existe, il y a une solidarité, mais elle n'est pas du tout neuve, en fait. C'est-à-dire que croire qu'il y a une stabilité possible entre la coexistence des pouvoirs, une sorte de paix, ça n'existe pas. La tension est permanente. Elle est quasiment organique, en fait. Il n'y a pas de société sans tension entre les pouvoirs qui l'organisent. Et d'ailleurs, je vais donner deux exemples très rapides et qui seront assez parlants. Roosevelt, qui est un président démocrate aux États-Unis, réélu 4 fois, hein, et donc a gagné la Seconde Guerre mondiale, a passé son temps à mettre en accusation la justice. C'était son mantra numéro un. Et dès qu'une chose ne fonctionnait pas, c'était soit la faute de la justice, soit c'était la faute, d'ailleurs, du Congrès américain. Donc, et il s'était rendu très populaire en faisant de la faisabilité. C'est-à-dire, moi je fais, la justice m'empêche. Et quand je fais, c'est parce que j'ai gagné contre la justice. Il faut réécouter ces causeries au coin du feu qu'il faisait à la radio, justement. C'était le premier chef d'État à faire ça. Et il en parle beaucoup, comme d'habitude, les magistrats, chers Américains. Voilà, vous voyez, c'était un président démocrate, donc c'est pas un truc réservé ni à la droite, ni à l'extrême droite. Le général de Gaulle lui-même n'a pas voulu faire de la justice un pouvoir, au sens où Montesquieu l'entendait, je veux dire. Il a voulu en faire une autorité. C'est-à-dire que lui-même se méfiait beaucoup de la justice, et quand vous lisez plusieurs témoignages de Gaulle qui parlent de la justice, il est pour un état de droit, bien entendu, mais vous voyez bien que il représente le pouvoir exécutif. Et c'est-à-dire, attendez, si vous voulez qu'on travaille sérieusement et qu'on puisse avancer, les juges, il va aussi falloir leur laisser une place particulière. Donc on voit bien que la tension entre ces pouvoirs, elle existe. Et donc, la solidarité dont vous parlez, à juste titre, entre voilà, les ministres, les anciens chefs d'État...
Je précise quand même, pardonnez-moi, hein, pour le débat, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se réjouissent de l'arrivée de Nicolas Sarkozy. C'est parfois même un peu surprenant à gauche.
6 sur 10, d'ailleurs.
Non, mais je veux dire, dans la classe politique, on a vu François Ruffin nous dire, par exemple, qu'il devait retourner en prison. Oui. Dire, tout le monde n'est pas aligné. Non plus, j'aimerais bien qu'on ne laisse pas quand même penser que la classe politique se soude derrière Nicolas Sarkozy. Il y a quand même des nuances. Pardonnez-moi.
Bien sûr, mais la seule chose que je voulais formuler à la suite de ce qui a été dit, c'est qu'il y a une tension permanente entre ces deux pouvoirs et qu'il n'y a pas de paix des braves possible, je pense.
Perrine Simon-Naoum, et peut-être pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure, je comprenais que comme s'il n'y avait peut-être pas assez d'aide pour les politiques à faire campagne, parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy a dépassé les montants, par exemple, pour la campagne de 2012, c'est l'affaire Big Malion. Celle-ci, on verra ce qu'en dit le procès en appel pour l'affaire libyenne de 2007, mais il y a quand même des candidats à la présidentielle qui réussissent à gagner en restant dans les clous.
Sûrement, mais le problème, je dirais, ne tient pas seulement dans les institutions, mais dans la société. Pour revenir sur ce que disait Arthur Chevalier, quand on relit bien Montesquieu, on voit que ça n'est pas du tout la théorie de séparation des pouvoirs telle qu'on a tendance à le dire trop rapidement, c'est-à-dire comme aux États-Unis, check and balances, à savoir pouvoir contre pouvoir. Là où Montesquieu est beaucoup plus subtil, c'est qu'à l'intérieur de chacun des trois pouvoirs, il instille un contre-pouvoir. C'est-à-dire que chacun de ces pouvoirs est limité à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler son domaine réservé. Et évidemment, c'est ça qu'on a beaucoup de mal à mettre en place. Maintenant, il y a un second problème, qui est le problème de savoir, me semble-t-il, aujourd'hui, qui dit l'état de droit. Et je ferai un parallèle entre l'économie et la justice. Depuis la mondialisation, nous avons été acculturés à l'économie. Nous avons appris de l'économie. Je ne crois pas que nous ayons beaucoup appris de droit constitutionnel ou de justice. Et là encore, je crois qu'il y a, d'une certaine façon, on attend peut-être un peu trop de ces affaires. Certes, elles doivent réguler le monde politique, mais elles ne peuvent pas suffire à éduquer le citoyen. Je crois que ce que nous devons retenir de la période que nous vivons, et parce que nous voulons des politiques qui soient les meilleures possibles, et que soumis non seulement à la pression de l'opinion, mais à la pression de la justice. Moi, je n'oublie pas, par exemple, le cas de Dominique Baudis, qui a été sali par... Une fois que vous êtes atteint par, je dirais, ce type de défiance, vous ne vous en remettez jamais. Or, lequel d'entre nous est à l'abri d'une erreur judiciaire? Personne. C'est ce qui s'est passé pour Baudis. Ça lui a coûté sa carrière et je pense qu'après, ça lui a coûté la vie. Si vous voulez, il y a toute une éducation à faire du citoyen sur les questions judiciaires, sur les questions, me semble-t-il, institutionnelles, avec l'idée que... il y a peut-être et il y a sûrement des excès du côté des politiques, mais que pour avoir les politiques les meilleures possibles, d'une certaine façon, il faut aussi pouvoir garantir, je dirais, un exercice qui soit un exercice le plus harmonieux possible, d'une certaine façon, je dirais, le plus le plus tranquille possible des fonctions qu'ils doivent exercer. Et la justice doit là être un appui du politique et non pas évidemment un ennemi du politique.
Dans l'affaire Baudis, il n'a pas du tout été condamné ou poursuivi.
Il n'a pas été condamné, mais les médias étaient lancés.
Oui, bah, voilà, mais c'est pas une erreur judiciaire au sens où il n'y a pas de poursuite contre lui.
Pardon, je rectifie. Vous
c'était
avez
les auteurs de la rumeur.
Ce n'était pas une erreur judiciaire, mais on sait que la rumeur tue.
Oui, bah,
et en l'occurrence. Je crois que c'est ce qui est arrivé.
Peut-être un dernier mot, Marc Lazare, avec vous. C'est aussi le pouvoir législatif, les politiques eux-mêmes qui ont fait toutes ces lois de plus en plus difficiles sur l'exécution provisoire, sur la corruption en politique, la probité, etc. Elles ne viennent pas de nulle part. C'était aussi une demande des citoyens.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai ce que dit Perrine. C'est tout à fait important. On manque de culture institutionnelle en France. Et on le voit même chez les étudiants qui sont supposés avoir un minimum de connaissances. connaissance de ces sujets-là. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arthur Chevalier, parce que je pense que c'est tout à fait important, cette idée de la tension entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique au sens large. Parce que moi, il me semble qu'on est rentré dans une autre phase, justement. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une tension fondamentale autour de deux conceptions de la démocratie. C'est très clair, maintenant. Et cette guerre, j'emploie un terme très fort. Je dis qu'on est au bord d'un schisme politique, comme il y a eu un schisme religieux entre catholiques et protestants. Et c'est quoi cet affrontement? C'est notamment ceux qui sont en train d'expliquer que la souveraineté populaire est sans limite. Et c'est cette raison pour laquelle j'ai été élu. Et donc, moi, j'ai plus de légitimité que toi qui n'as pas été élu, en l'occurrence les magistrats, m'obligent et me permettent de te critiquer en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant théorisé. Et c'est théorisé par un certain nombre d'acteurs politiques, moi, ce que j'appelle les nationaux populistes, mais surtout, c'est maintenant théorisé aux États-Unis. C'est le fameux discours de Vance, le vice-président américain, en février 2025 à Munich, où il explique exactement ça. Et c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, puisque nous avons été élu d'une certaine façon, alors je vais faire un raccourci et Perrine va me fusiller, que dans la conception tocquevillienne de la tyrannie de la majorité, c'est d'après moi ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, et puisque nous avons gagné les élections, nous incarnons le peuple, et donc effectivement on a le droit de faire ce que l'on veut, notamment de réduire au strict minimum le pouvoir de ceux qui n'ont pas eu la légitimité du suffrage universel. J'aime bien l'expression qu'emploie Pierre Rosanvallon, l'onction du suffrage universel. Et donc ça, c'est une transformation complète. Et on voit que maintenant c'est au cœur de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'affrontements entre certains politiques et justement le pouvoir judiciaire. Et au-delà de ça, c'est l'affrontement entre deux conceptions de la démocratie, c'est la démocratie pour aller vite, libérale et représentative d'un côté, et la démocratie illibérale qui est actuellement en cours.
Et qui n'est plus une démocratie.
Oui, mais qui, justement, mais leur force d'argumentaire, c'est de se présenter eux comme les meilleurs démocrates, parce qu'ils disent, nous sommes justement l'expression du peuple, et on voit très bien ce que voulait dire Vance quand il disait l'expression du peuple, parce que quand il décide de rencontrer une personne qui justement serait l'expression du peuple allemand, qu'est-ce qu'il va voir? Non pas le chancelier qui a gagné les élections, mais le leader de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand.
Eh bien, merci à tous les quatre pour cette première partie de l'Esprit public. Marc Lazare, Magali Lafourcade, Arthur Chevalier, Perrine Simon-Naoum. Restez avec nous dans un instant, 10 ans des attentats du 13 novembre. Où en est la menace? Que reste-t-il à faire pour la contrer?
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
85 attentats ont ainsi été déjoués en 10 ans, dont 6 cette année. Face à l'assaut, nous avons consolidé les valeurs d'une nation que nous construisons depuis des siècles et que nous n'aurons jamais fini de défendre. Et nous devons inlassablement poursuivre ce travail de transmission à nos enfants, d'éducation pour notre jeunesse. Nous devons inlassablement continuer de faire des républicains. Personne ne peut garantir malheureusement la fin des attentats. Mais nous pouvons garantir que pour ceux qui prendront les armes contre la France, la réponse sera intraitable, que nous continuerons ce combat contre le terrorisme sans relâche et que nous continuerons le combat pour notre jeunesse avec la même force.
C'était il y a 10 ans, 10 mois après les attentats contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. Pour la première fois, la France est touchée par des attentats suicides, les plus meurtriers qu'elle n'ait jamais connus. Saint-Denis, Paris, les terrasses et le Bataclan. Bilan, 132 morts, plus de 400 victimes et toutes les autres, marquées durablement par ce qui est encore difficile à appréhender. Cette semaine, jeudi 13 novembre, Emmanuel Macron a présidé les cérémonies de commémoration. Ici, devant le Jardin du Souvenir qui vient d'ouvrir ses portes, place Saint-Gervais, au cœur de la capitale. 6 blocs de granit choisis avec les familles de victimes pour représenter les lieux des attaques et des stèles où sont inscrits les noms des disparus. 10 ans après, le temps du souvenir, de la mémoire et de l'histoire, les attentats de 2015 ont-ils constitué un point de bascule dont on peut aujourd'hui percevoir l'avant et l'après? Et la menace terroriste, si elle a évolué, n'a pas disparu, comment faire pour la contrer? Nous sommes toujours en compagnie de Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louise à Rome. Magali Lafourcade, Fourcade, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés, Perrine Simon-Naoum, directrice de recherche au CNRS, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, et Arthur Chevalier, auteur, éditeur et chroniqueur. Vous écoutez l'Esprit public sur France Culture. Merci à vous de nous avoir rejoints. Alors, sur l'état de la menace, j'aimerais qu'on en dise un mot pour commencer, puisque, comme l'a dit le président, selon aussi la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, 85 projets d'attentats islamistes ont été déjoués depuis 10 ans. On décompte plus de 40 attentats perpétrés sur le sol français. Alors, bien sûr, ils ne viennent pas forcément de l'étranger, même plus de Daesh, d'Al-Qaïda, ils viennent de l'intérieur. Est-ce qu'on s'est habitué finalement à vivre avec le terrorisme, ou c'est simplement que le mode opératoire a changé? Magali Lafourcade.
Alors, effectivement, la menace terroriste est très présente et elle est en pleine évolution. D'abord, les grandes centrales terroristes ont moins de capacité de projection au niveau du sol français. Et puis, il y a eu des progrès extraordinaires faits par les services de renseignement qui permettent aussi de réduire le risque, la probabilité d'avoir l'attaque comme le 13 novembre, qui était une attaque qui a été préparée pendant un an, qui a demandé énormément de logistique, d'armes, de moyens financiers, de coordination. Enfin, c'est vraiment du terrorisme au sens où on l'entend, de très très structuré, avec de la criminalité organisée, etc. Aujourd'hui, la menace, elle a énormément changé. Elle est endogène. Il y a un rajeunissement énorme, puisque 70% des personnes ayant été interpellées ces derniers temps ont moins de 21 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, en plus, ont des troubles psychiatriques. C'est là où on voit, avec l'affaire de Romans sur Isère, le fait qu'en fait s'articule une radicalisation djihadiste qui existe toujours. Une djihadisation de la radicalité pour des gens qui ont une obsession ultra-violente. En fait, le trait commun, c'est ça, l'ultra-violence. Et puis une psychiatrisation des passages à l'acte. Et puis aussi, sur fond d'alcool et de stupéfiants. On sait que le captagon avait été la drogue utilisée par les terroristes du Bataclan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui peuvent, qui ne sont pas dans des réseaux, etc., qui peuvent s'endoctriner avec une tiktokisation, si j'ose dire cela comme ça, de l'endoctrinement, qui permet d'avoir des terroristes qui ont des moyens extrêmement rudimentaires et surtout une faiblesse idéologique. Et là, la faiblesse idéologique qui fait que cette couche est dans l'hybridation entre les djihadistes canal historique en quelque sorte, puis ceux qui sont plutôt accélérationnistes, ultra-droite, puis ceux qui sont masculinistes. De toute façon, les cibles sont toujours les arabo-musulmans, les juifs, les homosexuels, les femmes, les représentants de l'État, que ce soit les enseignants ou les policiers. Et donc, dans cette faiblesse de couche idéologique, fait que c'est très difficile de trouver les moyens de les identifier et donc d'évaluer la menace. On n'est absolument pas à l'abri que n'importe qui sorte de chez soi avec un couteau de cuisine, puisque trois quarts des attentats qui ont été perpétrés ces derniers temps sont avec une arme blanche, et deux tiers d'entre eux étaient des inconnus de la DGSI. Ce qui veut dire que le risque zéro ne peut pas exister. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand Emmanuel Macron dit que la nation se porte garante, que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque. Mais en fait, c'est extrêmement difficile, sauf à verser dans ce qu'on peut appeler le droit pénal de l'ennemi. Donc j'espère qu'on pourra y revenir, je ne vais pas être trop longue. Mais en fait, voilà l'état de la menace aujourd'hui.
Il dit aussi, comme on vient de l'entendre, qu'il ne faut pas s'attendre à la fin du terrorisme. Exactement. Et que le risque zéro n'existe pas.
On est dans quelque chose où le risque zéro n'existe pas, et qu'elle est tellement diffuse, large, et sur des populations qui sont à la croisée de plein de choses et beaucoup de troubles psy, qu'on a énormément de mal à pouvoir répondre à cela. Et ça nous fragilise tous.
Arthur Chevalier.
Oui, c'est vrai que 10 ans après le Bataclan, pas que le Bataclan, mais cet attentat du 13 novembre, un sentiment de défaite est évident. Pour une raison très simple, c'est que ce terrorisme islamiste qui a eu lieu ce jour-là est devenu un idéal dans cette République, un idéal concurrent du projet républicain, évidemment pas majoritaire, mais moi ce qui me rend très triste, c'est que l'explosion du nombre d'attentats déjoués et certains attentats quand même traumatisants, on a tué des professeurs dans ce pays, c'est quand même pas anodin.
Samuel Paty, Dominique Bernard.
Samuel Paty, exactement. Ça démontre que c'est devenu un véritable idéal qui existe dans notre société républicaine. Et de mon point de vue, c'est donc une forme d'échec et une promesse qui n'a pas été tenue après les attentats.
Vous voulez dire sur l'intégration?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement répondre la sécurité se porte bien. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on déjoue des attentats que c'est qu'une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça, voilà.
Deuxièmement, surtout qu'on ne les déjoue bien sûr.
Exactement. On en est très heureux et bravo aux policiers. Mais c'est-à-dire que c'était aussi un combat idéologique qui s'était engagé à ce moment-là. Et moi, je trouve pas que ça soit une victoire. Deuxièmement, pour compléter ce qu'a dit Magali Lafourcade, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt le patron de la DGSI justement la semaine dernière, qui relevait cette statistique impressionnante. 70% des personnes arrêtées dans le cadre d'un dossier terroriste sont des mineurs. De moins de 21 ans. Je précise. Moins de
21. Vous êtes ancien, avant VGE, vous.
Oui, voilà, avant VGE, exactement, pardon. Au moins de 21 ans. Enfin, c'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire que ça raconte, là encore, quelque chose de notre société, et on ne peut pas se contenter, à mon sens, 10 ans après, de se dire qu'on doit juste prier ensemble. Il se passe des choses dans ce pays. Il s'est passé... les choses sont en train de s'aggraver. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aussi relativiser et se souvenir que nous avons déjà connu ça. La France a déjà connu des grosses vagues d'attentats à la fin du 19e siècle. Il y a eu un attentat dans l'Assemblée nationale en 1893. Le gouvernement à l'époque avait pris un tournant sécuritaire, fait de délation, de fermeture de journaux, avait fait passer des lois sécuritaires qu'on a qualifiées d'ailleurs de lois scélérates. Toute une partie de la gauche était indignée par rapport à ce tournant sécuritaire. Nous avions à l'époque eu un gros débat républicain sur que faut-il faire de l'extrême gauche par rapport à la République. Bon, donc on a encore une fois déjà été capable de surmonter ce genre de choses. Donc pas de catastrophisme non plus. Mais enfin, quand même, 10 ans après, la concurrence idéologique par rapport à l'idéal républicain, moi je trouve que c'est inquiétant.
Est-ce qu'on peut, Perrine Simon-Naoum, dater au 13 novembre 2015 le début de la société polarisée à la française ?
Non, je ne crois pas. Je pense que, on doit le dater d'avant de l'irruption du terrorisme dans nos vies. Après les attentats du 11 septembre, le philosophe Jacques Derrida, dans un dialogue qu'il avait eu avec Jürgen Habermas, définissait, je crois, très bien le terrorisme et montrait que l'essence du terrorisme, c'était de produire une désorientation. C'est-à-dire que le terrorisme suscite la peur, il frappe arbitrairement, n'importe qui, n'importe quand, et c'est exactement qui s'est passé au Bataclan. Donc je dirais que d'une certaine façon, nous ne pouvons pas combattre le terrorisme, sauf à devenir ce qui s'est passé en Israël, une société en armes, une société qui est toujours sur le qui-vive. Je pense que en France, nous en sommes très loin. Cela dit, ce que montrait aussi Derrida, c'était que la lutte contre le terrorisme faisait courir un danger intrinsèque à la démocratie, précisément d'être infidèle à ses valeurs, c'est-à-dire finalement de mettre en place un état d'exception qui contreviendrait aux valeurs de la démocratie. Et c'est là où il me semble que la pédagogie que nous sommes en train de vivre, cette mémoire du terrorisme que nous essayons d'installer, de créer, est quelque chose de très intéressant. Évidemment, nous n'en sommes qu'au début. Mais la mémoire du terrorisme, me semble-t-il, est quelque chose de singulier. Et c'est aujourd'hui la seule arme que nous ayons véritablement contre le terrorisme. D'une part, parce que le terrorisme vient interrompre des vies. Et on l'a vu là encore au Bataclan ou ailleurs, des vies qui étaient à peine commencées. Et ce qui m'a frappé dans la manière dont on a, dans les jours qui ont suivi les attentats, restitué, on a cherché à rendre finalement à chaque vie individuelle son épaisseur. Et là, je crois que la mémoire du terrorisme est très importante. La mémoire des actes terroristes, pardon, a aussi une vocation pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut penser à ce que le terrorisme fait aux sociétés qu'il frappe. Et ensuite, parce que à travers les victimes, c'est évidemment nos valeurs qui sont directement attaquées, notre modèle de société, que donc nous sommes comptables non seulement de ça face aux familles endeuillées, mais aussi, je dirais que cet engagement collectif rappelle que chacun, finalement, chacun des termes de notre triptyque républicain, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc, si vous voulez, cette mémoire du terrorisme que nous sommes en train d'inventer, Et là, il y a, je crois, une différence quand même avec la fin du 19e siècle. Elle nous montre d'abord qu'il faut repartir des effets de la violence. Pour combattre la violence, c'est ce que montre très bien le philosophe Marc Crépon, c'est ce que montre très bien l'historien Stéphane Audouin-Rousseau. En fait, on ne peut saisir la violence qu'à partir de ses effets, c'est-à-dire à partir de ce qu'elle détruit, à partir de ce à quoi elle met fin. Et puis, d'autre part, il faut trouver, je crois, les mots pour combattre la peur.
Marc Lazare.
Bah, je crois que c'est un événement traumatique, énorme. Regardez des enquêtes qui ont été faites. 60% des Français se souviennent où ils étaient cette nuit-là. Mmh. 75% des Français se disent marqués par les attentats du 13 novembre. Des Français, donc pas simplement des Parisiens. Et les Parisiens, c'est encore plus, bien évidemment. 73% des Français se disent inquiets encore aujourd'hui, 10 ans après les attentats. Donc, incontestablement, c'est un événement traumatique, peut-être... sans comparaison avec toute l'histoire très longue des attentats. Vous évoquiez ceux du 19e siècle, donc des anarchistes, évidemment. Mais en France, on a eu tous les attentats palestiniens à partir des années 70 et qui ont marqué la France. Mais celui-ci restera. Et beaucoup de Français, d'ailleurs, dans ces enquêtes, disent que ils le garderont toujours. 83% des Français, ce fut un acte de guerre. 66% disent qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Alors, on n'est que 10 ans après, si j'ose dire, que peut-être que dans 20 ans, ce sera différent. Deuxième chose qui est très intéressante dans une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, là, qui a été faite à la fin du mois d'octobre, donc 10 ans après, quel est le sentiment dominant des Français par rapport à cet attentat ? Très intéressant, 47%, donc presque un Français sur deux, disent qu'ils ressentent de la colère. Et quand on regarde le détail, c'est 65% pour ceux de droite, 79% ceux qui sont à l'extrême droite, 53% ceux qui sont de confession catholique, contre 21% de musulmans. 21% de musulmans, si j'ose dire simplement. 60% des électeurs de Le Pen en 2022, 87% des électeurs de Zemmour. En revanche, pour les électeurs de gauche, c'est eux, ils sont plutôt dans l'idée du sentiment de solidarité, 28%. 28% en général des Français. Oui, c'est un événement traumatique tout à fait important. On a beaucoup d'enquêtes là-dessus, mais je crois qu'incontestablement, vous disiez, est-ce que ça a favorisé ou est-ce que ça a même créé la polarisation? Non, ça a accentué la polarisation, notamment autour des idées d'insécurité, de vulnérabilité, et il faut le dire, il faut le mettre sur la table, parce que c'est un sujet explosif, sur la question de l'islam. Vous l'évoquiez quasiment, Arthur Chevalier.
Oui,
oui, il y a une question de l'islam qui est posée au cœur de notre société. Je dis bien islam. La majorité des Français dans ces enquêtes, moi j'ai regardé ça de très près, distinguent les musulmans des islamistes. Il n'empêche que, évidemment, ça a été exploité politiquement par un certain nombre de formations qui font l'amalgame. Et c'est vrai qu'il y a une crainte aujourd'hui de l'islam, à tort ou à raison. Je pense que c'est à tort parce que il faut distinguer encore une fois la religion musulmane des islamistes. Mais l'effet est absolument considérable. Enfin, dernier point très, très rapidement par rapport à toutes les questions soulevées par Perrine sur la question de la mémoire. On a la chance, véritablement, d'avoir une immense enquête du CNRS qui est engagée, qui est dirigé par une équipe interdisciplinaire, notamment par l'historien Denis Péchanski et par un professeur de psychosociologie qui s'appelle Francis Eustache, qui font un travail considérable sur plusieurs années, qui font des entretiens filmés, qui essayent de voir comment s'articule la mémoire individuelle et s'organise la mémoire collective et ce qu'ils appellent aussi la mémoire sociale. La mémoire individuelle, c'est celle que chacun d'entre nous peut avoir, qu'on ait été victime ou qu'on ait justement eu connaissance de cela. La mémoire sociale, c'est celle que vient justement des institutions qui nous appellent à un devoir de mémoire. Et puis la mémoire collective, c'est l'intersection entre justement les mémoires individuelles et la mémoire sociale. Et là, c'est des choses très importantes. Et ce qui est très intéressant dans cette enquête, alors là, c'est complètement nouveau, mais inspiré de ce qui a été fait aux États-Unis, expliquent ces chercheurs, après le 11 septembre 2001, c'est les effets, y compris, qu'on peut retrouver à travers des enquêtes faites, enfin des des IRM, hein, sur le cerveau même des personnes qui ont été victimes de ces attentats. C'est une enquête absolument considérable et qui apporte une immense connaissance. Il y a un livre d'ailleurs qui a déjà été sorti à partir d'un premier élément de ces enquêtes.
Arthur Chevalier, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots où est-ce qu'on en est justement dans la mémoire, l'histoire, le souvenir, avec ce musée mémorial qui va ouvrir ses portes normalement, puisque ça a pris du retard, en 2030 dans Paris, dans le 13e arrondissement, avec ce jardin mémorial très beau, je trouve, dans le centre de Paris. 10 ans, est-ce que c'est classique, même si rien n'est classique, évidemment? Et puis après, avec vous, Magali Lafourcade, pour terminer.
Non, c'est pas classique, d'ailleurs. Pour ça, il suffit de comparer. Par exemple, il y a eu des attentats à Nice. Pas attendu 10 ans pour mettre des lieux symboliques pour commémorer. Hein. Ça a été là tout de suite. Donc non, c'est pas classique.
C'était en 2016.
C'était en 2016, hein, 14 juillet. Donc ça n'est pas classique. Ce qui est clair, c'est que là, il y a eu un temps d'absorption. Je pense que c'est une évidence. Ces 10 années, ça a été... Bon, alors il y a une lenteur aussi propre à le traitement de la mémoire nationale. C'est très touchy, comme on dit. C'est très sensible. Mais il n'empêche que l'on voit bien que la chose n'était pas claire. Ce qui avait été décidé dans un premier temps, c'était donc de mettre à côté du Mont-Valérien un musée dédié à la mémoire, en gros, de toutes les sortes de terrorisme en France. On voit très bien ce que ça voulait dire pour ne pas stigmatiser telle sorte ou telle sorte de terrorisme, évidemment, pour pas qu'on ait l'idée qu'il n'y ait que le terroriste islamiste. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'attentat le plus meurtrier en France avant le 13 novembre, c'était un attentat de 1961 perpétré par l'OAS, donc l'Organisation pour l'Algérie française, sur le train entre Strasbourg et Paris.
L'armée secrète.
Donc, voilà. Donc, je veux dire, c'était donc l'extrême droite. Juste pour qu'on se souvienne que c'est pas toujours du fait des mêmes. Voilà. Mais pour revenir sur votre question, Astrid, on en est là. Là, on a trouvé un nouvel endroit dans le 13e. Apparemment, c'est bien lancé.
Une caserne.
Une caserne, mais très vaste, très très grande, et donc très appropriée, avec un budget adapté. Donc, a priori, ça roule.
Je finis avec vous, Magali Lafourcade, et j'ajoute à toutes les statistiques que nous a données Marc Lazare, une qui m'a semblé quand même importante. 8 musulmans en France sur 10 ont le sentiment que la haine envers eux s'est aggravée depuis 10 ans. IFOP pour la Grande Mosquée de Paris. Ce qu'a dit d'ailleurs le président de la Fondation de l'Islam de France, Galeb Benchek. Il est clair que 2015 est une annus horribilis à la fois pour la nation française et pour les musulmans de France. Est-ce que ça a joué aussi ça? Et puis peut-être une dernière citation de l'ancien président de la République en charge lors des événements du 13 novembre, des attentats. Le terrorisme est un poison lent, il produit ses effets bien après les actes d'horreur qu'il génère, avec ce qu'on a commencé à évoquer, on n'a plus beaucoup de temps, mais ce fameux état d'urgence dont vous parliez, Perrine Simon-Naoum, qui devient permanent. Magali Lafourcade.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on voit que là où on peut être fier de nous, c'est qu'on a résisté, on n'est pas tombé comme les Américains dans des zones de non-droit, dans des Guantanamo, etc. En revanche, on a créé ce qu'on peut appeler un droit pénal de l'ennemi. Or, dans une démocratie, vous traitez des criminels, des délinquants, et la figure du terroriste qui aujourd'hui fait la figure du monstre, comme autrefois le pédophile était la figure du monstre, reste injusticiable à qui on doit appliquer les règles de l'état de droit. Donc nous avons aujourd'hui deux droits qui se superposent, un droit commun pour tout le reste, et pour les terroristes, les gardes à vue, le cadre d'enquête n'est pas du tout le même, les gardes à vue peuvent être de 6 jours, anonymat des enquêteurs, la cour d'assises spécialement composée pour les juger, la détention pénale, la détention provisoire peut aller jusqu'à 4 ans, le régime d'application des peines est très spécifique, etc. Donc c'est un autre droit qui s'applique. Et ça, aujourd'hui, même après 10 ans, on n'a pas la maturité de se dire, est-ce que ça tient toujours pour des profils qui ne sont pas celui de Salah Abdeslam? Au début, 6 jours de garde à vue, on se disait, c'est parce qu'il y a énormément de supports numériques analysés, etc. Quand on est sur le cas de l'INCEL, par exemple, donc ce garçon qui voulait faire une tuerie de masse contre des femmes parce qu'il était pas bien dans sa peau, etc. Est-ce que là, on a besoin d'un tel arsenal juridique au niveau judiciaire? Au moins, c'est dans le judiciaire. Mais ça s'associe à ça, l'état d'urgence permanent. C'est-à-dire qu'on a versé avec la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme de 2017, l'essentiel des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un empilement. Aujourd'hui, un jeune qui sort en contrôle judiciaire pour être rescolarisé alors qu'il est donc sous le régime du contrôle judiciaire terroriste, va devoir supporter aussi des mesures administratives que sont les MICAS, qui sont des mesures individuelles de surveillance, qui fait qu'il va devoir pointer tous les jours à 7h30. Tous les jours. Ce qui peut contraindre l'objectif du juge juge qui, lui, de faire qu'il soit rescolarisé avec un gros contrôle judiciaire. Donc on a empilé des mesures sans avoir une vision globale parce que la menace étant toujours là, très diffuse, très difficile à évaluer, on est complètement dans la peur.
Et qui peut être utile aussi dans le cas d'un projet d'attentat, vous pensez ?
Alors, sauf que à Saint-Étienne-du-Rouvray, le jeune qui a tué le père Hamel, qui était un islamiste radicalisé extrêmement violent, avait un contrôle judiciaire et un bracelet électronique. Donc vous n'empêchez jamais. Alors faut-il tous les incarcérer ? Il y a des profils différents et donc on n'a pas encore la maturité de se dire est-ce que ce qu'on a fait c'était tout bien ? Et puis surtout les mesures dérogatoires qui durent et qui sont utilisées à d'autres fins que le terrorisme ont été largement utilisées, notamment contre les manifestations écologistes et d'autres mouvements sociaux. Et là on peut se dire qu'il y a un détournement qui est contraire, je rebondis sur ce qu'a dit Perrine Simon-Naoum, qui est contraire un peu à nos valeurs qui sont avant tout des valeurs de liberté. Il faut encore analyser tout ça et il y a très peu de voix qui s'élèvent pour dire que peut-être il y a des choses à revoir sur notre droit.
Il faut sans doute encore du temps. Merci à tous les quatre. On passe à vos coups de cœur. Perrine Simon-Naoum, directrice de recherche au CNRS, professeure attachée au département de philosophie à l'École normale supérieure. Votre dernier livre, Aron, critique de Sartre, aux éditions Calman Lévy, paru en 2025, en mars. Quel est votre coup de cœur pour nos auditeurs ?
Mon coup de cœur est pour la liberté.
Ah, bah ça c'est très,
la liberté,
très agréable.
D'abord en pensant à Boualem Sansal, qui est aujourd'hui libre et tout le monde doit s'en réjouir. Et puis, la liberté en pensant à une série que vous pouvez voir depuis vendredi sur HBO, intitulée Merteuil. Une série qui a été réalisée de façon magistrale, interprétée de façon magistrale par de très grands acteurs. Diane Kruger, Anna Maria Bartolomei, Lucas Bravo, Vincent Lacoste. Qui nous réapprend que nous sommes des individus libres. Cette série, c'est une adaptation et une lecture du grand texte, du très grand texte de Pierre Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Mais la série anticipe en fait l'intrigue des liaisons dangereuses et nous montre l'éducation des femmes, l'éducation de la marquise de Merteuil, qui est l'une des grandes figures donc de cet échange épistolaire des liaisons dangereuses et qui montre finalement comment le XVIIIe siècle, contrairement à l'idée qu'on en a, est un siècle où les femmes possèdent une forme de liberté, où elles font alliance entre elles, où elles déjouent les préjugés. Et je dirais que cette richesse et cet éclat du XVIIIe siècle reflètent sur notre société aujourd'hui, puisque cette série nous parle évidemment du rapport entre les hommes et les femmes, et nous voyons que nous sommes beaucoup plus libres et imaginatifs que nous aurions tendance à le penser. Donc Merteuil sur HBO Max.
Arthur Chevalier, auteur, éditeur, chroniqueur, l'histoire à l'épreuve des émotions, c'est au CERF.
Oui.
Un coup de cœur. On fait pas l'appel ici.
Mon double coup de cœur est espagnol. C'est d'une part pour un documentaire qui vient d'être remis en ligne par Arte. Il date de 2024 sur la guerre d'Espagne, qui est magnifique en deux épisodes, où je trouve qu'il y a un peu de décontraction par rapport au régime franquiste en ce moment. C'est-à-dire qu'on commence à dire que Franco était un peu un type démodère, que tout ça est plus compliqué que ça.
Non. Ah, vous avez vu, il y a des hommages à Pétain aussi. Donc
c'est exactement ça. Donc je trouve que c'est pas mal de rappeler ce qui a été vraiment une dictature, appelons ça fasciste, en tout cas dans les années 30, et cette guerre monstrueuse, et je la couple avec un livre qui vient de paraître, qui sont les mémoires du roi d'Espagne, qui paraissent Juan Carlos Ier, l'ancien roi d'Espagne, qui viennent de paraître. Alors du coup, je les ai lus pour de vrai, de A à Z, et c'est très touchant, je trouve, parce qu'on l'oublie, mais Juan Carlos était l'héritier de Franco, et il a rendu la démocratie au peuple espagnol, alors que personne ne le lui demandait, qu'un coup d'État a été fait, entre guillemets, en son nom par l'extrême droite, qu'il a demandé à ces gens d'arrêter en leur disant que maintenant la démocratie devait régner en Espagne, et donc ce roi qui est en exil, maintenant détesté par son royaume, et qui écrit en fait, je suis juste triste qu'on a un peu oublié que j'ai à ce point aimé l'Espagne et que j'ai à ce point voulu faire bien pour les Espagnols. Et donc, voilà, un peu de nostalgie.
Deux coups de cœur, maintenant on sort complètement des règles. Allez-y, Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Votre dernier livre, Histoire du populisme, est à lire aux éditions Gallimard.
Après l'Espagne, l'Italie. Le 2 novembre 1975, était assassiné Pier Paolo Pasolini. Ça fait 50 ans, c'est une commémoration importante en Italie, malheureusement assez discrète en France. Il y a eu un beau colloque à Bordeaux la semaine dernière. Grand écrivain, artiste, cinéaste, tout à fait intéressant à lire en ce moment par sa conception, sa vision très contradictoire, très discutable de la modernité, aussi des effets de la publicité. Et en plus, on a la chance que ses écrits corsaires viennent d'être réédités dans une collection de poche avec une excellente présentation par René de Secati, qui est un pasolinien doc, comme on dit en italien.
Merci Marc Lazare. Magali Lafourcade, très court, vous êtes magistrate présidente de l'Institut français des droits et libertés. Votre Que sais-je, les droits de l'homme est paru aux éditions PUF en janvier 2025.
Alors moi, c'est un livre qui est mon coup de cœur. C'est un livre de Denis Barranger et d'Olivier Beau qui s'appelle La dissolution de la Ve République, qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Les Petits Matins. Ce sont deux spécialistes de droit politique et constitutionnel qui analysent de manière très intéressante les causes profondes de notre crise actuelle. Je vous le recommande.
Et moi, je vous recommande un livre d'aquarelle de la dessinatrice Noëlle Ehrenschmidt, jugée le 13 novembre. On en parlait. Magnifique le livre qui permet d'appréhender le procès de manière plus facile, je trouve, coécrit avec Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'Esprit public. On se retrouve la semaine prochaine. Très bel après-midi.